Alors salut Nico, comment tu vas?
Salut Mathieu, je vais très bien. Merci de m'inviter dans ton émission.
Eh ben écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs, s'il te plaît?
Moi, je m'appelle Nico, je suis musicien, producteur de musique électronique. Mon projet Christine existe depuis une petite dizaine d'années. J'ai sorti 2 albums pour le moment. Je commence à travailler sur le 3e. Je profite du confinement pour travailler sur ça.
D'accord. Et alors, comment t'es venu le nom de Christine?
Christine, c'est issu du film de John Carpenter, Christine, hein, voilà. À la base, tiré d'un bouquin de Stephen King. Enfin, j'aime beaucoup la littérature de science-fiction. J'ai découvert Stephen King quand j'étais ado. C'est des choses qui m'ont un peu retourné le cerveau. La pop culture, les films d'horreur, les films de John Carpenter, toutes ces choses-là m'ont nourri quasiment toute ma vie. Et donc, il y a une dizaine d'années, quand j'ai voulu, avec un ami, réellement créer un vrai projet musical et qu'on a mis en commun nos références, c'était un peu toutes ces références-là de manière assez logique. On a eu envie de reprendre le nom de ce film, le nom de ce bouquin, d'autant que Christine, dans le bouquin et dans le film, c'est l'histoire d'une voiture possédée, tueuse, qui donc a une relation un peu fusionnelle avec son propriétaire. Et c'est un peu comme ça qu'on ressentait aussi notre relation avec notre musique, avec notre matériel de musique, nos ordinateurs. Ce rapport un peu homme-machine qui peut être aliénant. Tout ça mis bout à bout, on s'est dit, bah, appelons-nous Christine, quoi.
Ok. Et par contre, quand Christine and the Queens est arrivée, ça vous a pas un peu enlevé le nom que vous aviez pour le donner un peu plus à elle, puisque justement, en termes de référencement, même quand on dit Christine, c'est ce que mes potes et mes collègues, comme on dit, par exemple, genre, c'est pas Christine and the Queen, non, c'est Christine tout court, et ça vous a pas un peu embêté, ça?
Oui, c'était un peu embêtant, mais le fait est que c'est arrivé exactement en même temps. Nous, on a créé notre projet, et Louise a créé le sien de son côté, quasiment à la même période, et on s'est connus, en fait, en tout début de carrière. On avait été tous les deux sélectionnés, donc Christine, mon projet, et Christine the Queen de l'autre côté, sur les chantiers des Franco. C'est un truc, pendant une semaine, tu travailles ton projet sur scène, t'as des cours de chant, t'as une espèce de psychologie, de comptoir avec un mec, enfin t'as plein de choses comme ça, et du coup les groupes se croisent et traînent ensemble pendant une semaine, et donc on avait fait la connaissance avec elle à ce moment-là, et on s'est dit, ah ouais, donc toi aussi tu t'appelles Christine, très bien, donc on s'est dit, bon, voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça, quoi, toi t'as mis les Queens en plus, puis en plus on fait pas tout à fait la même musique, et bon, c'est une fille très sympa en plus, et bon, bah après il s'est avéré qu'effectivement elle a un peu explosé, quoi, en termes de notoriété. Donc, ça nous a fait un peu d'ombre. On va pas se mentir. Mais, malheureusement, c'est la vie, quoi. Donc, moi, je me suis jamais vraiment vu changer de nom à cause de ça. Bon, c'est un peu dommage pour moi, mais c'est les choses qui arrivent, quoi.
Ouais. De toute façon, il n'y a pas de rancœur à avoir puisque, de toute façon, vous avez tous les deux le projet pour le même moment et que, bah, voilà, c'est les choses de la vie.
Tout à fait.
Ça fait combien de temps que tu fais de la musique en tout?
Alors, ça fait, j'ai 38 ans, je fais de la musique, j'ai découvert la musique quand j'avais 15 ans, hein, donc du coup, ça fait plus de 20 ans, 23 ans. Ça fait peur, hein, quand tu me dis comme ça.
Et t'as commencé aux platines ou t'avais un instrument plutôt?
Non, j'ai commencé à la guitare. J'ai découvert la guitare à 14 ans. Mon grand-père m'a sorti une vieille guitare du grenier. J'étais là, waouh, trop bien et tout. Et puis après, j'ai rencontré des potes qui faisaient de la guitare. On s'est mis là-dedans. Puis bon, ça, je te dis ça, c'est dans les années 90. Hein. Donc les ordinateurs, bon, les platines, ça existait évidemment, hein, mais c'était quand même un truc pointu, quoi. Tu vois, les mecs qui faisaient des scratchs et tout. Donc c'est un truc qui m'a un peu vite obsédé. Et les platines, le mix et tout, j'ai découvert ça, j'avais 18, 19 ans. Et alors après, quand je me suis mis là-dedans, effectivement, c'est devenu, j'ai un peu laissé la guitare de côté. Et puis là, on est un peu dans le début des années 2000. Donc du coup, en parallèle, t'as l'explosion de l'informatique personnelle, donc les premiers ordinateurs, 22, 23 ans, j'achète mon premier ordinateur portable, et puis là, ça devient fou, quoi. Tu te dis, ouais, je peux brancher mes platines, sampler, j'ai acheté un clavier MIDI, je peux faire des sons. Bon, c'est un peu comme ça que ça commence vraiment, quoi.
Et là, tu commençais à composer à quel âge, toi?
Composer, c'est un grand mot, mais on va dire que j'ai commencé à faire mes premiers pseudo-morceaux avec l'ordinateur, quoi. Donc, j'avais commencé chez mes parents, il y avait l'ordinateur à la maison. J'avais 18, 20 ans. Je crois que c'est à peu près à ce moment-là que mes parents ont acheté un ordinateur à la maison.
Et donc, tu utilisais quoi comme logiciel à l'époque?
J'utilisais Acid Live.
Donc, c'est comme Acid Pro, voilà. C'est le truc justement de ce
Oui, non, Acid Pro, excuse-moi. Ça marche. J'ai Acid Pro 5 ou 3, je sais plus. Enfin, c'était assez sommaire comme truc quand même.
Ouais. Ok. Et là, donc, maintenant, quel setup tu utilises pour composer?
Ah bon, bah maintenant j'ai des ordinateurs très puissants. Je travaille sur Ableton Live, que j'aime beaucoup comme logiciel, hein, qui est très très répandu et qui est un très très bon logiciel. J'ai pu, avec les années, acquérir pas mal de vrais instruments. Donc, j'ai encore mes premières guitares. Je m'en sers encore. Hein. Là, juste à côté de moi, bah, j'ai justement la fameuse guitare de mon grand-père, guitare classique. Classique, pleine d'autocollants. Quand j'enregistre, c'est assez rare, mais quand j'enregistre un peu de guitare classique pour faire un truc, un petit riff, une petite mélodie, j'utilise cette guitare. Mais j'ai aussi bah, ma dernière guitare, une Gibson SG édition limitée en bois cerisier, je crois, tu vois, très très belle guitare que je rêvais d'avoir depuis des années et des années. Tout un tas de synthétiseurs analogiques. J'aime beaucoup les vieux synthés comme le Juno 106, les boîtes à rythme comme la TR-808 ou la TR-909 que je possède toutes les deux. J'ai un synthé Moog Sub 37 aussi que j'aime beaucoup. J'ai le Roland SH1 que j'aime beaucoup. Là, je te cite les 7-8 machines principales que j'utilise en fait.
D'accord. Voilà. Et quand t'es en live, donc tu me souviens bien, t'es en platine vinyle.
D'accord. Ouais, en live, déjà, je suis pas un musicien live. D'accord. Très bon. Donc je me vois pas taper le solo de guitare ou le solo de synthé ou même le chant au micro. Donc du coup j'aime bien le format platine. Je m'étais formé au turntablisme, c'est-à-dire donc à la technique du mix sur platine vinyle, scratch, passe-passe. Vraiment jouer avec le vinyle, hein, qui devient quasiment un peu comme une guitare, quasiment. Et je suis resté très attaché à ce truc-là, j'aime bien. Et en plus, ça fait toujours son petit effet, parce que à côté de tous ces musiciens électroniques qui sont juste devant leur ordinateur, ou alors avec des platines CD, bon, il y a un truc un peu gestuel que les gens aiment bien, donc j'ai toujours apprécié ce truc-là. Puis pour conclure, je dirais que j'ai mis tellement d'années, tu vois, donc je t'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé la musique réellement il y a 23 ans, 24 ans. C'est toute ma vie, les instruments que j'ai accumulés, de la première guitare de mon grand-père au Juno 106, qui est un synthé formidable que j'ai acquis il y a 4-5 ans, le Moog que j'ai acheté il y a 2 ans, ma guitare SG. C'est des trucs, en fait, j'ai trop peur de les trimballer en tournée.
Ouais.
Sur ma dernière tournée, le dernier album en 2019, j'ai commencé à prendre mon Juno sur scène pour les premières dates, et au bout de la troisième ou la quatrième, je flippais tellement de le péter, quoi. Et en plus, à réparer, c'est une tannée, t'as 4 mois de délai pour réparer ton synthé, tu vois. Et assez vite, je l'ai remplacé par un petit synthé moins cher. C'est du matériel précieux, quoi. Donc j'ai construit ma formule comme ça, en fait.
Ouais. Au pire, tu peux pas demander justement à ceux qui t'organisaient le live, t'as déjà un prêt de platine, t'emmènes pas tes platines quand tu vas tourner.
Ouais.
Tu peux pas demander aussi un petit synthé avec, c'est toi qui amènes le synthé?
Oui, c'est moi qui amène le synthé. Bah, en fait, quand tu demandes du matériel sur scène, je dirais qu'il y a deux cas. Il y a le matériel classique que tu peux demander, que tu sois DJ débutant ou Martin Garrix, quoi, tu vois. Il y a les standards, donc les platines CD, vinyle, Pioneer, Technique, c'est les standards, donc il y en a partout. Et après, il y a les choses un peu plus particulières. Les vieux synthés, c'est un peu plus particulier. C'est un peu comme si tu arrivais et que tu disais, bah moi, il me faut une guitare de 1972. Si j'ai pas ça, je joue pas, quoi. Donc t'imagines dans quel genre de truc que tu mettrais, l'organisateur et tout. Je suis pas assez connu pour avoir ce genre de demande, et puis de deux, même si je l'étais, je pense que à un moment donné faut rester quand même raisonnable.
Si t'es en tournée en Indonésie ou je sais pas où, en Thaïlande, et que tu demandes ça, bah clairement, genre, va trouver le matos dans le coin, quoi.
Ça peut être très compliqué en Indonésie, par exemple, j'y étais il y a un an, ou ça peut être aussi très compliqué au fin fond de la Bretagne. Et puis même des fois, je me rappelle d'une histoire d'ailleurs, il y a quelques années, je jouais au Mexique, donc on utilisait nos fameuses platines vinyle Technics MK2, hein, et on était à Guadalajara, qui est quand même une très grande ville au Mexique, et ils nous trouvent donc une paire de platines, mais elle fonctionne pas, tu vois, et donc on s'en rend compte l'après-midi pendant les balances, et là du coup panique, le mec a dû aller à Mexico faire un aller-retour en bagnole, donc genre 6 heures de route, quoi, tu vois. Wow. Pour aller trouver une autre paire de platines, et les platines sont arrivées à un quart d'heure avant le début du concert, tu vois, et donc on était là en stress, tu vois, à l'autre bout du monde, genre putain merde. Donc là on s'est dit, ouais, quand même, quoi, il y a quand même certains coins dans le monde, pourtant pas non plus défavorisés, hein. Le Mexique, ça va, hein, c'est pas
Le pire.
Qui peuvent potentiellement galérer. Faut essayer d'être raisonnable, je pense.
Pire des cas, tu sortais Virtual DJ, le Smart Mix, et on est parti pour 15-20 minutes, tu vois, on espère.
Ouais, oui, voilà, voilà.
Non, c'est vraiment l'arnaque, ça.
Ouais, non, il y a des solutions, hein. Il y a toujours moyen de s'en sortir, hein, en vrai.
Ouais, ok, donc faut rester un peu humble quand même, Barbara, ton matos, quoi. Ah ouais. Ou sinon, tu prends ton matos avec toi, quoi.
Ouais, bah, c'est ça. Moi, je prends le minimum pour que ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de problème, quoi.
Donc, tu es aussi le directeur du label Mouton Noir Records sur Rouen, qui comprend donc Brookline, Museau, ADM, Plaisir, Incredible Polo et Ici. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, tout à fait. J'ai créé avec un associé ce label en 2015 dans une volonté d'indépendance par rapport à ma musique, à la musique de Christine. On sortait d'une signature en label, on sortait d'une signature chez Universal pour l'édition et ça marchait plus, quoi. Le gâteau était trop petit finalement pour se le séparer avec ce genre de grosse structure et j'étais en train de vivre le moment typique d'un groupe qui a ses 3-4 premières années un peu ça décolle machin mais qui en même temps fait de la musique indépendante et qui en même temps est un peu tributaire des modes et compagnie et qui du coup la rentabilité je sais pas enfin les donc en fait il faut trouver un autre business plan. Moi ce qui m'a semblé évident c'était que je devais récupérer la propriété intellectuelle et un peu physique de mon projet et sortir la musique moi-même pour que ça soit plus viable en fait tu vois donc j'ai créé mon label. C'était l'occasion de produire ma musique comme je voulais, au rythme que je voulais, d'également créer un certain nombre de compétences autour de moi, comme le studio d'enregistrement, comme le graphisme, comme la vidéo, comme la photo, sans être obligé de traiter avec des structures qui ont pignon sur rue. Et... Parce que bon, c'est super de bosser dans des gros studios parisiens, tu vois, par exemple. Mais un gros studio parisien, c'est 1000 euros la journée. Ça pose vraiment la question de quelle est la rentabilité pour un groupe de musique indé de payer 1000 euros par jour de studio, sachant que pour faire un album ou même un EP, il faut au moins 2-3 semaines, quoi. Mais encore là, je te parle de la phase un peu de finition. T'arrives pas avec une feuille blanche dans un studio à 1000 euros la journée. Peut-être qu'à la grande époque, les groupes comme Queen et compagnie pouvaient le faire, prendre 3 mois, 6 mois. Mais bon, nous, c'est pas possible, quoi. Donc du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible de continuer comme ça. Il faut absolument que je repense le modèle. Donc, Mouton Noir s'est créé comme ça.
Et donc là, à partir de là, t'as commencé qu'avec Christine, c'est ça, le label Mouton Noir Records, et après t'as Brookline qui s'est inséré. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre après?
Bah après Incredible Polo, après plusieurs groupes, ouais, Ici, Plaisir. Après le truc c'est que vu que moi je fais du développement, ça prend un peu de temps, et puis on travaille en équipe réduite, donc forcément on peut pas bosser 15 groupes en même temps. Donc globalement, en général, on bosse 2-3-4 groupes par an. Plus ça serait compliqué, et puis faut en revenir à ce qu'on se disait un peu tout à l'heure en offline, c'est trop en fait. Je peux plus bosser 80 heures la semaine parce que je travaille sur 4 groupes en même temps et que j'essaie d'avancer sur tout et j'essaie d'être bon sur tout. Et c'est invivable sur le long terme. Déjà avant la crise, je me disais putain mais à ce rythme-là, j'arriverai jamais à 45 ans, tu vois. Et c'est vrai quelque part. Si je veux pouvoir continuer de faire de la musique jusqu'à 70 piges, je peux pas travailler 80 heures la semaine, tu vois.
Après, en fait, si ta partie administration, entre guillemets, ou du moins de gérer les artistes, te prend 90% de ton temps, le temps de créa, il est mort, quoi.
Ouais, en plus, c'est vrai. Bon, après, ça, c'est un choix. C'est vrai que quand je bosse sur le projet de quelqu'un d'autre, fatalement, je mets le mien de côté, quoi. Ça peut être fait de temps en temps, mais là, j'ai beaucoup bossé sur du rap ces 8 derniers mois. J'ai mis beaucoup la Christine de côté, et au final, je suis pas très content. Je suis un peu frustré. Du coup, je suis très content là. Tout le confinement là, ça a été genre waouh, je peux retravailler ma musique, etc. quoi. Je suis pas hyper content du bout. Enfin, je suis très content de la musique qu'on sort et qu'on a faite, mais je suis pas content du business. Le rap, en plus, c'est la pire branche du business de la musique, quoi. Je l'ai un peu découvert ces derniers mois. C'est n'importe quoi. Enfin,
qu'est-ce que t'entends par là?
C'est du fast-food. Pourtant, j'aime le rap et il y a des trucs. C'est de la musique incroyable et la culture qu'il y a derrière, en plus, c'est complètement dingue. Mais aujourd'hui, le rap, c'est devenu le Big Mac, le McDonald's de la musique, quoi. C'est à celui qui sortira le plus de morceaux dans l'année. C'est à celui qui fera le plus de followers sur Instagram. Puis la musique, elle sort et elle est oubliée 3 jours après. On peut pas faire des choses bien de cette manière.
En fait, c'est une culture de l'instantanéité et faut que ça marche tout de suite, sinon c'est oublié direct, c'est ça?
Ouais.
Donc ouais, c'est un peu compliqué dans ces conditions, sachant que tu bosses assez souvent pour un projet. Si justement il est abandonné en si peu de temps, ou du moins qu'il est oublié rapidement, c'est extrêmement chronophage et pour pas grand chose.
Ouais, complètement.
On va revenir un petit peu au projet Christine et donc aussi au studio donc d'enregistrement. T'as un studio d'enregistrement sur Rouen, c'est ça, avec le label Mouton Noir Records?
Ouais.
Et donc là, vous acceptez aussi des personnes justement pour venir jouer dans votre studio?
Oui, tout est envisageable, hein. J'ai fait un peu au début, j'ai arrêté de le faire après. Tout est envisageable.
Ouais, parce que je regardais un petit peu sur le site des Moutons Noirs, donc donc il y avait un peu la liste de tous les équipements que vous aviez, donc d'ailleurs sacrée liste, hein, franchement j'étais là, je fais il y a du matos, c'est cool. Bon, je reviendrai sur la création après, mais comment se déroule toi ton processus créatif?
Il n'y a pas de règles spécifiques. Il y a plein de directions. Parfois, c'est juste, je me pose, je commence des choses qui m'inspirent. Un son de synthé m'amène vers un truc. Parfois, c'est beaucoup plus réfléchi. Là, en ce moment, je travaille un nouveau morceau avec Neus. Donc, on est beaucoup dans l'échange. Là, lui, il habite à Aix-en-Provence. Donc, on fait que du virtuel pour l'instant. Donc, il y a beaucoup d'échanges. On parle beaucoup, en fait. On fait presque peu de musique. Enfin, on bosse dans notre coin, on s'envoie des trucs. Mais quand on se parle, on va se parler 3 heures et on va même pas parler du morceau, quoi. On va parler de choses globales dans la musique, de clips, de stratégies, de nos envies. Super productif. C'est ce qu'on a fait là, juste avant toi, pendant 3 heures. Et moi, ça m'a amené dans plein de trucs. Il y a pas de règles. Je pense que justement, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'ouvrir le champ des possibles. Travailler avec d'autres artistes, par exemple, c'est aussi une grosse source d'inspiration pour moi. Là, avoir travaillé 8 mois sur du rap, ça m'a amené dans des directions musicales que j'aurais pas forcément fait tout seul, et ça oriente certains morceaux du futur album de Christine, par exemple. Du coup, Cham, que je te citais tout à l'heure, qui est un super compositeur, j'ai bossé avec lui sur d'autres morceaux, et il m'a aidé à composer des trucs et tout, il m'a emmené dans des directions, et rien que ça, c'est super intéressant, je trouve.
En fait, c'est un échange de procédés et de connaissances.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, de toute façon, en plus, avec Neus, si je me souviens bien, t'avais déjà bossé avec lui sur ton dernier album. T'avais fait une track avec lui.
Ouais.
L'inspiration, donc, ça devient plutôt comment, toi? C'est plus à quelque chose qui te plaît sur l'instant, tu vas le faire comme ça?
Comment dire? Je dirais que l'inspiration, c'est un peu ce que tu fais de ta propre éducation et ta propre culture. Tu vois, par exemple, j'aime beaucoup les films Marvel et je peux me perdre un peu là-dedans pendant certaines périodes. Ça me détend, en plus, tu vois. C'est vraiment typiquement le genre de film qui me détend. Mais pour le coup, ça m'inspire que dalle, tu vois. C'est un peu vide, quoi. Et là, je sentais vraiment que j'avais besoin un peu de profondeur. Donc, l'un de mes processus d'inspiration, là, c'est, par exemple, c'est de réécouter pas mal de vinyles, de refarfouiller un peu dans mes vinyles, ou alors de revoir ou d'aller voir des films que j'ai pas pu voir. Là, je me disais que je voulais absolument me revoir Fight Club, par exemple. C'est un film qui m'a scotché quand j'étais ado. Bah tiens, j'avais pas eu le temps de voir les derniers films de Oiseau, donc j'ai regardé Le Dain il y a quelques jours. Là, c'est quand même des choses où tu regardes ça, après je redescends en bas, je me mets devant mon ordi et devant mon synthé, et généralement, il se passe plus de choses qu'après avoir regardé un Marvel, quoi, tu vois.
Bah déjà, Mister Oiseau, donc Quentin Dupieux, quand il fait un film, c'est lui qui réalise la bande-son très souvent. Je me souviens, quand j'ai maté Wrong Cops, j'ai trop kiffé la bande-son, t'es oufissime.
Bah, ouais, ouais, ouais.
Et après, quels sont les artistes que tu apprécies particulièrement?
Il n'y a plus beaucoup aujourd'hui, en vrai.
Ah ouais?
Bah, il y a beaucoup d'artistes qui se perdent à cause du business, en fait. Tu vois, par exemple, il y a un groupe que j'adore, c'est Tame Impala.
Ouais.
Le premier album était très très chouette, le deuxième est une claque monumentale. Et là, le troisième, qui est sorti il y a peu de temps, est plutôt insipide, en fait. C'est une sorte de calque des trucs d'avant, mais sans profondeur. Et je pense que typiquement, c'est un peu un mec qui s'est fait happer par sa hype, quoi. Parce que je pense pas que tu puisses faire un album génial quand les 2 années qui précèdent le moment où tu rentres en studio, tu n'as été que sur la route, que à faire des concerts, enfin, puis que t'es dans cette espèce d'urgence où il faut absolument que tu sortes des nouveaux trucs régulièrement et tout. Enfin, comme certains disent qu'il y a rarement meilleur album que le premier d'un artiste, c'est souvent un peu vrai, parce que déjà, en général, le premier album d'un artiste, il a été mûri pendant beaucoup d'années, tu vois. Les mecs sont pas arrivés, puis boum, ont composé le truc. Non, c'est tout un travail, toute une mise en place, qui a mis des années en général. La plupart des artistes que j'ai aimé, je trouve qu'ils se perdent, quoi.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément le recul sur leur création musicale, ou du moins ils sont tellement à fond dedans qu'ils n'ont pas le temps de se poser les bonnes questions aussi, et de faire un album qui prendra peut-être plus de temps à produire, mais qu'ils auront quelque chose qui les fera vibrer et qui fera vibrer le public.
Ouais, ouais, c'est ça, et peut-être une déconnexion avec le réel aussi. Je pense que pour être honnête, quand t'es un artiste, quand t'es créatif, et que ça soit de la musique, ou de la peinture, ou de la photo, ou du cinéma, tu dois être aussi être honnête avec toi-même et honnête avec le monde qui t'entoure. Et donc, si tu vis dans ta bulle, si tu vis dans ton microcosme parisien, par exemple, ou ailleurs, hein, bah, je suis pas sûr que t'aies des choses incroyables à dire. Encore une fois, souvent, des artistes qui ont marqué les époques, c'était des gens qui ont souffert, c'est des gens... Alors, je dis pas qu'il faut absolument souffrir, et quoique, peut-être que la vraie création, c'est aussi de la souffrance. Donc, quand tu souffres plus, est-ce que tu restes un bon artiste? C'est une question à se poser.
Donc pour toi, faut forcément être dépressif ou torturé pour faire de la musique potentiellement de qualité ?
C'est pas obligé d'être suicidaire pour faire de la musique de qualité. Je pense qu'on a tous des problèmes au quotidien. Une peine de cœur, c'est peut-être pas le bon exemple parce que tout le monde a des peines de cœur, mais je dirais des problèmes d'argent, c'est des problèmes qui peuvent être inspirants quelque part, ou des problèmes familiaux, ou la vie en fait. La vie, perdre quelqu'un, ça peut être des moments, mais de toute manière, ce ne sont que des moments qui sont importants si tu t'accordes le temps de les vivre.
Donc en fait, ouais, c'est essayer de pas passer outre et bon après j'ai pas trop d'exemples comment dire à balancer là-dessus, donc je vais pas continuer sur un terrain que je ne connais pas. Voilà.
Il y a des exemples qu'on connaît tous, hein, Freddie Mercury.
Sur son homosexualité qui était pas acceptée par ses parents, c'est ça?
Sa vie qui a été dure. Et finalement le seul moment où il avait suffisamment de succès et d'argent pour quelque part ne plus avoir de problème, bah il s'est renfoncé de lui-même dans la merde. Et puis quand il a compris qu'il était malade, qu'il est revenu à l'essentiel. Aussi. Sa fin de carrière a été jolie à Freddie Mercury parce que les dernières années, il savait qu'il allait mourir et qu'il est revenu à l'essentiel. Il est revenu à Queen, déjà, premièrement. Il est revenu aux gens qu'il avait peut-être véritablement aimé dans sa vie, que ça soit des femmes, des hommes, mais alors qu'il était dans l'irréel. Au plus haut de son succès, tout n'était que superficiel.
À la consommation de drogue, la vie de star, etc., ça te met dans un autre monde. Hein.
Ouais.
Alors, pour revenir un petit peu au projet musical, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les personnes qui sont dans la production musicale ou qui veulent s'y lancer?
Bah, je dirais déjà, faut être très motivé. Hein, là. C'est un métier de passion, donc faut absolument sortir de l'image qu'on peut avoir de l'artiste. C'est un métier où soit t'as envie de faire ça tous les jours, en te levant jusqu'au moment où tu te couches, mais que t'as envie de faire de la musique, que t'as envie d'être devant un instrument et faire de la musique, quoi, tu vois. Faut pas se tromper sur avoir envie de jouer devant des gens. C'est vrai pour n'importe quoi, en fait. Ouvre pas un magasin pour juste faire de la vente. Ouvre un magasin parce que tu aimes le produit que tu vends, parce que t'aimes la nourriture si tu fais un resto.
Donc, en fait, le faire par passion et puis surtout, je pense que c'est important aussi, c'est de pas vouloir le résultat instantané, mais plus, avoir quelque chose qui te plaira sur le long terme.
Oui, parce que si t'es passionné, tu le feras sur le long terme, alors que si tu veux juste ce truc maintenant, tu seras juste frustré parce que t'iras pas jusqu'où tu rêves et puis tu seras passé à côté de l'essentiel.
Donc, en fait, c'est ça, c'est essayer de bosser jusqu'à temps d'avoir un résultat qui te plaise.
Ouais, ouais. Faut pas faire du business pour faire du business, quoi.
Ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour augmenter la visibilité artistique sur les réseaux?
À ce niveau-là, je suis peut-être pas le meilleur. Moi, ce que je dis souvent aux artistes que j'essaie d'accompagner, le plus important, c'est de raconter une histoire. Si ton histoire, elle est intéressante, et écoute, il y a des gens qui vont s'y intéresser, et puis c'est comme ça que tu vas commencer à créer un intérêt et une émotion autour de ce que tu fais. Donc, encore une fois, je pense qu'on en revient au truc d'être honnête avec soi-même.
Donc, en fait, c'est apporter d'abord un produit de qualité avant d'essayer de le vendre à tout prix sur les réseaux.
Ouais,
parce qu'en même temps, c'est difficile de se démarquer. C'est ce qu'on disait avec Globule Double hier. C'est qu'en gros, c'est difficile de se démarquer avec tout le nombre de projets qui sortent aujourd'hui. Il faut vraiment avoir quelque chose qui sorte du lot. Et même avec ça, t'es pas sûr d'avoir de la visibilité.
Ouais, parce que si on parle vraiment juste de com, en fait, les influenceurs sont plus forts que les artistes pour faire marcher de la com. Faire de l'influencing, je sais pas si ça se dit, c'est pas de l'art. Donc en fait, on est un peu dans un truc qui se mord la queue, quoi.
Donc c'est un peu compliqué d'en parler.
En plus, actuellement, franchement, je crois que je la comprends plus vraiment, la com, parce que savoir que la majorité des 14, des 12, 20 ans sont sur TikTok à regarder des vidéos de combien, de 12 secondes, je crois, et qu'ils sont capables de faire ça pendant 4 heures, je comprends même pas, en fait. Je comprends même plus cette façon de consommer.
Moi, je t'avoue que TikTok, j'ai toujours considéré ça comme cancer, vraiment un cancer de ouf, donc je me suis jamais vraiment penché sur le sujet. Je pensais pas un jour être dépassé générationnellement, mais en fait, je le suis déjà parce que de 1, j'ai pas envie de m'y pencher, et de 2, parce que je m'intéresse pas, en fait, je m'en fous, hein, ça m'intéresse pas.
Parce que t'as raison, moi non plus. Ça, c'est une discussion que j'avais avec un gros DA chez Because. On parlait un peu de ça. Et lui, dans son business, ça l'enchante pas trop. Pas. Mais le premier truc qu'il regarde sur un artiste, c'est le nombre de followers qu'il a sur Instagram. Et il me disait, limite, qu'il signe pas un mec à moins de 50K sur Instagram.
C'est énorme, déjà, 50K.
Ah ouais, déjà, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Enfin, tu vois, les mecs ont 50K, ils passent leur vie à faire de la story, à raconter de la merde. Moi, s'il y a des gens que ça intéresse d'être en story Instagram toute la journée, ça les regarde. Mais encore une fois, j'appelle pas ça un artiste, quoi.
Ouais, c'est juste de la promotion pour de la promotion. Et où est-ce que la création?
Enfin, moi, quand je suis en train de faire de la musique, j'ai pas le temps de me filmer, en fait, tu vois. Enfin, je le fais parce que, voilà, pour faire un peu de contenu. Mais globalement, si je suis dans mon truc, je suis dans mon truc. j'ai pas besoin de prendre des photos ou de me filmer ou de montrer ça aux gens. Non, je fais mon truc. Puis quand ça sera fini, bah je vous le montrerai, quoi. Il me disait, tu vois, ma fille, ce gars-là, Nikos, encore une fois, il disait que c'était il y a quelques mois, sa fille, elle a 12 ou 13 ans. Il limite le portable, le temps de portable à la journée, tu vois. Et donc, le soir, elle a le droit à 4 heures de portable. C'est énorme, 4 heures sur son portable, quoi. Et du coup, lui, après, il regarde un peu ce qu'elle fait, vérifie qu'elle aille pas sur des trucs trop chelous, quoi. Il voit qu'elle a fait 3 heures et demie de TikTok.
Ça va faire une génération vraiment, c'est ceux qui vont être éduqués en pensant que, en faisant des vidéos de TikTok, ils vont accéder au succès, accéder à ces stades d'influenceurs qui vivent vraiment, qui te montrent toujours le côté le plus glorieux de leur vie sans t'en montrer le côté mauvais de la chose. C'est assez inquiétant, je trouve, en tout cas.
Ouais, carrément.
Est-ce que tu aurais le mot de la fin?
Bah écoute, en plein Covid, moi j'ai envie de dire, aujourd'hui, essayons de faire partie de la solution et pas du problème.
Donc en gros, essayer de rechanger un petit peu, ou du moins de changer nos mentalités et notre consommation.
Chacun à son échelle, chacun comme il peut, chacun à ses moyens, mais je pense que si aujourd'hui l'humanité prend pas conscience qu'on doit faire des efforts et qu'on doit changer, bah c'est foutu en fait.
C'est déjà peut-être trop tard, et que si on vraiment on change pas de manière radicale tout de suite maintenant, ou du moins dans les prochains mois, bah ça va être plus possible de changer, quoi.
Ouais. Et l'issue, elle sera dramatique, quoi, mais dramatique.
Bah je pense qu'on la vivra, hein. On verra bien comment ça évolue. C'est ça.
Ouais. Moi j'ai presque de la chance, parce que je pense que je suis limite la dernière génération qui a un peu profité, qui peut encore profiter 10-20 ans. Dans 20 ans, j'aurai 58 ans. Donc je serai loin d'être mort, loin d'être vieux. J'aurais profité, quoi.
Tu auras quand même le début des emmerdes, quand même. Je pense 2030, ce sera critique déjà. Enfin même, on sait même pas dans les prochaines années. Ça peut aider à partir très vite en sucette, hein. On sait pas. Hein. Quand tu vois en quelques mois ce qu'on pensait, ce qui était sûr avant, ne l'est plus du tout maintenant. Voilà, c'est beaucoup de choses vont être remises en question maintenant et vont être encore remises en question. On va se prendre pas mal de claques prochainement. On verra ce qui va se passer. Hein.
Bah déjà, j'attends le discours sur les artistes de notre président demain.
Comment ça? Il va parler aux artistes?
Ouais, il va parler des intermittents, et bon, principalement des intermittents, hein, parce que c'est le gros problème actuel. Et puis bon, espérons qu'il parle aussi un peu des artistes de manière globale, parce que il n'y a pas que les intermittents non plus en France, quoi. Donc
ouais, tout le milieu artistique, en fait, qui s'est pris aussi une énorme claque par rapport à ça, quoi.
Ah bah nous, de toute façon, nous là, c'est l'apocalypse, hein, faut pas se mentir, hein. D'ailleurs, on n'a pas trop évoqué depuis le début, parce qu'on est resté sur l'art et sur le global. Puis bon, moi, je considère pas que ma vie est plus importante que la caissière, tu vois. Faut qu'il y ait des solutions autant pour moi, l'intermittent, que pour la caissière. Sinon, ça marchera pas de toute manière. Donc voilà. Pour les intermittents, là, c'est un flip absolu, parce que en vrai, nous, il est clair qu'on va pas retravailler cette année, en fait.
Ouais.
Ou très très peu. Donc concrètement, on risque au moins la moitié, ou si ce n'est la majorité, de perdre ce statut.
Ah oui, parce qu'en fait, si tu fais pas tant de dates, ou du moins tant d'heures dans l'année, tu ne peux pas être considéré comme intermittent du spectacle, c'est ça?
Ouais, on doit faire 44 cachets pour les artistes, 55, je crois, pour les techniciens. Donc sur un an. Donc sans concert, la plupart des artistes font leur cachet sur les concerts.
Ouais.
Sans concert, bah y a pas de travail, tu vois. Et pourtant, c'est ça un peu le paradoxe, c'est qu'on continue de travailler. On est chez nous, on fait de la musique, on fait des vidéos, on fait des interviews, et on continue de travailler. Mais ce travail-là, il a jamais été reconnu, mais on l'acceptait parce que il pouvait être valorisé grâce aux concerts, aux événements, ou à la télé, ou moi j'acceptais, enfin c'est dans ce fonctionnement, mais qui n'a pas de sens en même temps aussi quand il pense, tu vois. Pourquoi j'aurais pas un salaire minimum de vie quand je passe la journée à faire ma musique? Pourquoi la nana qui s'occupe de ses gosses, pourquoi on n'aurait pas un salaire universel, quoi?
Ça va être aussi une grosse question, mais en tout cas. mais en tout cas, je pense que ça va être, le milieu artistique, c'est mort déjà, parce que effectivement, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, ou du moins un traitement vraiment efficace, les rassemblements en concert, je veux dire, quand tu vois les situations d'un concert, on est à moins de 30-40 cm les uns des autres, c'est une possibilité de propagation du virus qui est juste monstrueuse. Faut recommander des concerts alors qu'on a vraiment pas de trucs, c'est pas possible, c'est absolument pas possible.
Je suis d'accord avec toi.
Donc là, c'est vrai que d'après les situations les plus optimistes, ils prévoient peut-être un vaccin septembre-octobre, et encore, franchement, après, ça pose pas mal de questions en termes de production, une fois qu'il sera disponible, qu'il aura été testé sur l'humain, tout ça, donc ça veut dire que l'année 2020, elle est morte pour les artistes.
2020, elle est morte, et franchement, 2021, c'est pas gagné, quoi.
Peut-être qu'il y en a aussi qui ont perdu leur base de fans, ou du moins en un an, si tu ressors pas de projet dans ce télé-là, que t'as pas eu le temps de vendre l'album que t'avais derrière, ça va être très compliqué de remonter. Hein.
Bah ouais. Bah c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui continuent de sortir de la musique, il y en a même qui sortent leur album. Rhône qui a sorti son album il y a pas longtemps, Toxic Avenger qui va sortir le sien, mais c'est hyper dangereux. Puis c'est pire que tout, parce que moi c'est pareil, moi à la base, mon album, je voulais sortir mon premier single en septembre. le prochain là. Et sortir de ce prochain album, bah, je m'étais a priori fixé sur début 2021. Mais moi, dans mon économie indépendante, autofinancée, si derrière, j'ai pas au moins 25 ou 30 concerts, je mets la clé sous la porte, en fait, tu vois. Parce que c'est comme ça qu'il est payé, mon album. J'investis de l'argent dans la com, dans les clips, dans le temps aussi que je passe à bosser le truc. Et derrière, bon, bah, je récupère mon investissement en faisant des concerts, en exploitant ma musique aussi en termes de pub et tout, de synchro et de diffusion. Et mes vinyles, je les vends aussi en concert. Et, donc tout ça n'a plus de sens, quoi. Si on peut pas sortir chez nous, si on peut pas se rassembler, quoi.
Ouais, donc en fait, tout le merch, toute la distribution, même par rapport à tes concerts qui marchent, ça va être aussi les synchros qui vont peut-être être aussi déclenchés. Donc en fait, tout le système économique de l'artiste, il est mort, sauf peut-être pour les ultra grands et encore.
Ouais, et encore. Parce que les ultra gros, c'est peut-être presque plus dangereux. Parce que par exemple, les premiers qui vont mettre la clé sous la porte, là, c'est les boîtes de booking.
Ouais.
Tu vois, Live Nation. Bon, Live Nation est comme loin de mettre la clé sous la porte, hein, on va se rassurer.
Mais Live Nation, ça appartient pas à un énorme label, ça? C'est pas Warner? Je sais plus, je crois que ça appartient à un des Big Three, hein.
Oui, peut-être. Oui, peut-être. La branche en elle-même, là, elle est en souffrance. Et cette branche-là, elle s'occupe des gros artistes. Après, moi, je dis ça, mon booker, il est dans la même situation, hein. C'est un petit booker indé. S'il reprend pas en septembre, il met la clé sous la porte. Dans quelques mois, si ça se trouve, bah, déjà, moi, j'ai plus de booker. Puis j'en connais plein d'autres. Donc les gros artistes, si leur méga écosystème qui est autour d'eux tourne plus, ça va plus être très rentable non plus, leur histoire, quoi. Je sais pas comment Travis Scott, il va continuer à financer l'équipe à 200 000 euros si derrière il vend plus de disques, enfin beaucoup moins, et qu'il fait pas de concerts. L'économie du concert, ça représente, même quand t'es Travis Scott, 70 ou 80% de tes revenus, hein.
Ouais, parce que vu que les ventes physiques sont complètement écrasées, streaming, ça existe quasiment plus, c'est via le live et les synchros potentiellement que tu touches plus de sous.
Ouais, et puis les GAFA, ils ont jamais été généreux avec nous, hein. Ils exploitent notre création, mais ils nous reversent que des miettes.
Ouais, YouTube, c'est le pire, ouais. Apple Music, je sais pas si c'est aussi ghetto que ça, mais je sais pas trop. C'est vrai que je sais pas trop là.
Après, on va pas se battre pour quelques centimes, hein, parce que l'autre, il donne 5 centimes de plus qu'il est meilleur.
C'est compliqué, en tout cas, cette situation, et j'espère que ce sera vite résolu, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui sont en souffrance. Bah, j'espère qu'on arrivera à se relever, en tout cas, parce que ça risque d'être très compliqué.
Après, moi, il y a aussi un truc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, d'autre. Moi, je trouve ça bien aussi qu'on puisse pas se rassembler à trop. Je trouve que les gros événements, c'est quand même pas terrible. Il y a 10 ans, rien qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle sur scène, je jouais dans ma région, en Normandie, parce qu'il y avait plein de petites salles, parce qu'il y avait plein de petits festivals. L'été, mais le nombre de petits festivals qu'il y avait un peu partout dans des bleds, des trucs, il y avait moins de 1000 personnes, quoi. C'est très bien, ça a fonctionné. C'était ça aussi qu'il faut recréer.
De la proximité de la petitesse.
Ouais, ouais. Justement, j'en parlais aussi avec Zadig, qui est un artiste international, hein, qui joue. Il me disait 80% de ses dates, c'est à l'étranger.
Ouais.
Le mec, il est français. Il vit à Rouen. Je lui dis, bah, c'est quoi, on va essayer de te faire jouer chez nous, quoi. C'est mon pote, il habite à 1 km d'ici. Vu qu'il a plus de date, là, tu vois, si je lui dis, mec, bon, bah, pour un cachet. J'en parlais même à mes potes l'autre jour en visio, on faisait un apéro. Je disais, bah, les copains, un truc que je vais mettre en place cet été, bah, je vais organiser une petite soirée à la maison. On va être 50. 30, 40, 50. J'ai un peu de place, hein, donc on va pas être tassé, tu vois. Je vous propose, moi, de poser le son et d'inviter quelques artistes, peut-être Zadig et tout. Par contre, je vous demanderai, dans ce cas-là, de filer tous 20, 30 balles pour les artistes, pour qu'on puisse se faire au minimum un cachet. Et ils m'ont tous dit, oh ouais, mais trop bien, mais carrément, quoi.
Tu dis 20 fois 50, c'est ça? Donc ça fait genre 1000 euros de cachet, donc pour 3 ou 4 artistes?
Ouais. Le cachet minimum pour un artiste, c'est 200 balles, à peu près, avec les charges.
Ok.
Donc ça veut dire que pour survivre, il faudrait qu'on arrive à faire ça au minimum 200 balles par semaine, un concert par semaine. Normalement, on doit faire que 44 cachets par an, donc ça fait quasiment un concert par semaine. Donc ça, c'est le tarif minimum. Évidemment que c'est mieux d'avoir un concert qui est payé 1000 ou 1500 ou 2000. Enfin, je te parle plutôt des trucs raisonnables. Moi, mes concerts, ils se vendent entre 700 et 1500 euros. Donc évidemment que c'est mieux, tu vois. Mais quelque part, je préfère faire 3 concerts dans ma région à 300 balles que d'en faire un à 1000.
Donc en fait, revoir aussi un petit peu le sens des priorités, mais ça, c'est un questionnement personnel. C'est aussi un choix personnel de faire peut-être plus avec moins de revenus. C'est aussi un choix.
Ouais.
Bah, en tout cas, c'est sur ces belles paroles, je pense que l'on va se quitter, parce qu'après, je vais avoir du mal à monter tout ça.
Ouais,
mais en tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Donc c'était un plaisir de t'avoir parmi nous.
Mais de même, Mathieu, c'était un plaisir.
Donc voilà, c'était Christine pour Radio Poche. Je te souhaite une excellente soirée.
Salut Mathieu, à bientôt.
Salut.